Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est pour moi le début de quelque chose, parce que je suis en début de processus. Donc, c'est l'occasion de présenter le corpus que je pense qui va me concerner pendant les prochaines années. Ça va peut-être changer, bouger. C'est vraiment le début de mon parcours de réflexion sur la nudité et la sexualité dans les images de mode. Je m'intéresse aux articulations et intersections entre les images de mode, les images d'art et les images pornographiques, en particulier dans la photographie de mode contemporaine. Le titre de la présentation emprunte au titre du livre de Jean Goulmeau, « Ces livres qu'on ne lit que d'une main », un titre qui exprime plus mon intuition de recherche quant au travail sur les corps et l'imaginaire que certaines images dans les revues de mode opèrent à la manière de livres et de revues érotiques ou pornographiques. Il ne s'agit pas pour moi ici de démontrer comment les images de mode instrumentalisent les codes visuels pornographiques. Je devrais dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire ça, mais aussi d'explorer comment certaines images de mode performent des scripts culturels de la sexualité qui fonctionnent comme des stratégies masturbatoires. Je conçois donc les images à l'étude comme des hybrides qui fonctionnent à la fois comme projet commercial, travail esthétique et image excitante. Je m'intéresserai donc à ces images de mode contemporaine qu'on pourrait définir selon les termes de « body image », un concept de Linda Williams, c'est-à-dire des images qui touchent le corps et ses sensations, ou encore comme des images qui opèrent la captatio excitationis, concept articulé par Marianne Pavot, qui désigne la capacité des productions culturelles à caractère sexuel de capter les corps et de produire une excitation des corps chez le spectateur ou la spectatrice, ou un terme emprunté à Preciado, Béatrice ou Paul, le lecteur client ou la lectrice cliente. Donc, c'est une façon peut-être plus claire de parler du récepteur des images, de la réceptrice des images dans le cas d'une image de mode ou pornographique. Quand je dis aux gens que je travaille sur des images de mode à caractère sexuel, à 95% du temps, les gens me disent « Ah, tu travailles sur Helmut Newton » ou « Tu travailles sur Guy Bourdin ». Je vous montre des exemples d'images à caractère sexuel. Celle en haut avec les saucisses, c'est quand même un peu drôle. deux photographes de mode dont les images ont marqué la période, surtout des années 70, particulièrement en France, mais aussi aux États-Unis, par un style érotique. Donc vraiment, on parle de leurs images comme un style érotique. Certes, ces images érotisent les corps et, à cette époque-là, cherchent à décloisonner l'image de mode par une certaine subversion de ces codes traditionnels. Je vous montre en exemple, juste parce que c'est un photographe que j'aime bien, Erwin Blumenfeld, une image de 1953 et l'autre un petit peu plus tardive, de ces images de femmes qui n'ont pas vraiment de visage, hein, qui sont des espèces de mannequins qui portent les vêtements un peu mis en scène, mais qui sont vraiment loin d'avoir une expérience, on pourrait dire, incarnée d'un corps. Mais à vrai dire, les images qui m'intéressent plutôt sont des photographies contemporaines qui adoptent une représentation plus explicite de la nudité et de la sexualité et qui font plus que avoir un style érotique. Et donc, je commence en vous présentant deux séries photographiques qui m'intéressent en particulier en ce moment, et auquel je vais revenir pendant la présentation. La première, qui date de 2013, est parue dans cette édition de la revue anglaise Pop, qui est une revue qui se veut une revue de mode culturelle, c'est-à-dire une revue de mode qui s'intéresse de façon égale à la mode, à la culture, à la littérature, à l'architecture, au design. Du moins, c'est ce qu'elle réclame. C'est une revue qui est publiée par un groupe anglais, mais qui est diffusé dans une grande quantité de pays dans le monde, qui se veut donc une revue internationale. Dans cette revue, donc à l'édition printemps-été 2013, il y a cet éditorial de mode, ce portfolio de Sean Insane, qui s'appelle Stoya. On a vu Stoya hier pendant une présentation. C'est une actrice pornographique qui, ici, joue le rôle du mannequin pour cette éditoriale. Je vous montre les images rapidement. C'est sûr que c'est un peu différent de les voir comme ça que dans la revue. Là. Par exemple, cette image ici, c'est une image double page, donc ça change un petit peu la nature des images, mais bon, c'est le mieux que je peux faire avec un PowerPoint. on voit les notices des vêtements ici, là. Donc c'est vraiment des images qui veulent montrer les vêtements de la saison, mais qui en même temps montrent cette femme de plus en plus dénudée dans des postures fortement sexualisées. La série se termine avec cette image. On y reviendra plus tard. Aussi, l'autre portfolio qui m'intéresse, des images par Mario Sorrenti, qui est un photographe de mode de renom, qui est d'ailleurs celui qui a lancé la mode du porno chic dans les années 90, en faisant des photos de Kate Moss, même du héroïne chic, ces filles très, très, très maigres. Dans cette revue 032C, qui est une revue allemande, mais écrite en anglais, et qui, elle aussi, se veut une revue de mode culturelle, et qui est publiée partout dans le monde, dans beaucoup de pays dans le monde, donc qui se veut internationale. Cette série photographique par Mario Sorrenti, qui s'appelle Queen Frostine. Queen Frostine, qui est un personnage d'un jeu américain pour enfants qui s'appelle Candyland. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu avec le porno féerique hier. Et là, je vous montre quelques-unes des images seulement parce qu'il y a 21 images dans la série, mais je vous montre les plus parlantes. La fille-femme, entre les deux, qui est représentée, c'est une mannequin professionnelle qui n'appartient pas au monde de la pornographie. Elle s'appelle Camilla Christensen. Donc, des images, encore une fois ici, avec les notices, les indices au bas de la page qui donnent les références des vêtements de la saison à acheter, qui clairement jouent avec des codes extérieurs au monde de la mode, on va dire ça. Donc, ce qui me paraît intéressant avec ces images-là, c'est ne pas seulement comprendre les stratégies de représentation visuelle comme d'une récupération du pornographique dans les images de mode, ce qui a été travaillé par Brian McNair dans son livre Porno Chic, c'est-à-dire que le porno chic, ce serait les représentations qui s'amusent avec l'aspect choquant et illicite des codes pornographiques, des scripts pornographiques. On pourrait par exemple penser dans ces termes-là, par exemple à des publicités comme ça. C'est une publicité pour une marque de jeans. Donc c'est ça, pas tellement y penser en termes de porno chic, mais plutôt de reconnaître une forme de devenir érotique ou de devenir pornographique de ces images par leur performance d'une variété de... une variété de scripts culturels de la sexualité associés aux stratégies masturbatoires, qui est un terme que j'emprunte à Preciado dans son étude de Playboy comme pornotopie. Elle comprend Playboy comme une technique transportable de soutien stratégique de la masturbation. Donc, les images, selon moi, c'est plus une intuition encore à ce moment-ci de ma recherche, mais ne sont pas simplement un jeu avec la pornographie, mais incarne d'une certaine façon un système pornographique. Cette notion de script qui a été abordée plusieurs fois vient du travail de John Gagnon qui formule la notion de script de sexualité. Dans une perspective qui conçoit la sexualité comme quelque chose de construit et de non essentiel, Gagnon propose de comprendre les conduites sexuelles à partir de schèmes cognitifs organisés qui définissent ce qui doit être fait avec une personne ou une image dans ce contexte, dans telle ou telle circonstance, à tel ou tel moment, et les sentiments et motivations qui sont appropriés à la situation. Dans le travail de Gagnon, ces scripts prennent trois formes qui vont du contenu de la vie mentale, appelé script intrapsychique, à l'interaction sociale, script interpersonnel, et au scénario culturel, script culturel. Ce sont surtout les scripts culturels qui me concernent ici. Et donc, on peut donc parler des représentations sexuelles explicites dans ces scripts culturels qui relèvent de genres visuels, et là je cite Gagnon, de genres visuels et littéraires très circonscrits qui comportent une grande variété d'indices sociaux qui informent les lecteurs et les spectateurs qu'ils sont autorisés à être excités. Les scripts culturels de ces genres proposent donc des façons de représenter la sexualité, la nudité et les attitudes. Dans la théorie de Gagnon, ces scripts agissent sur la sexualité vécue, puisqu'ils deviennent en quelque sorte des modèles à suivre, consciemment ou inconsciemment, dans la construction d'une identité sexuelle. Les scripts culturels de la sexualité écrivent donc des scénarios et récits qui se répètent dans la vie individuelle, comme dans l'espace public et social. Les genres visuels qui proposent au spectateur des indices qui lui permettent l'excitation sexuelle peuvent donc être compris comme mettant en forme les codes du visible excitant. Les images fixes et mouvantes de la pornographie s'inscrivent certainement dans ces genres visuels qui codifient l'excitation et aussi la sexualité. Et donc, je m'intéresse à savoir comment une variété de scripts culturels de la sexualité sont superposés couche par-dessus couche dans des images de mode qui jouent, dans le fond, avec ces scripts. Et dans le fond, ce que je vois dans les images de mon corpus, c'est qu'il y a comme un jeu sur la fine ligne entre plusieurs scripts, dont le spectacle, donc script de la sexualité, mais aussi d'autres scripts culturels, dont par exemple un script du spectacle de la marchandise à la mode, qui est juste une façon de faire des images de mode. Je vous montre juste par exemple, pour comprendre toutes les couches qui habitent ces images, la collection à partir de laquelle cette photo... ce que cette photo valorise, dans le fond. Donc, c'est les chaussures. On voit que le reste du corps est plus mis à nu, mais donc les souliers. Et de la même façon, dans l'autre série photographique, je vous montre la publicité, c'est pour la marque Miu Miu, donc le chemisier qu'elle porte, qui vient de cette collection-là. Donc, évidemment, il y a ce projet commercial de vendre ses vêtements, mais plutôt que de les montrer dans une situation plutôt neutre, une femme devant un fond neutre, on choisit de les montrer dans un thème très, très sexualisé. En plus de cette référence au système commercial de la mode, il y a une très grande référence dans ces images. Oups, pardon. Une très grande référence dans ces images à une culture esthétique qui fait une reprise des thèmes iconographiques appartenant à des traditions artistiques. Ici, des traditions artistiques et des thèmes érotiques, comme par exemple dans cette série, la référence au thème de Léda et le cygne. Faut dire que Layla m'a fait, à la session passée, m'a fait réaliser que c'est pas un signe dans l'image, c'est une oie. Donc, j'aurais sûrement du travail à faire. C'est quoi la différence entre une oie et un signe? Quelque chose que je prévois faire dans le travail de ma thèse, mais en même temps, on peut dire que c'est, bon, le rappel d'un oiseau blanc, évidemment, cette histoire du cygne qui séduit ou viole et séduit Léda dans ce récit mythologique. Aussi, par exemple, une référence à l'horizontalité des nus féminins de l'histoire de l'art, par exemple, les odalisques. Je vous montre juste un exemple comme ça parce qu'il ressemble d'une certaine façon aux images de Mario Sorrenti. En plus de ce script, qui est déjà un script érotique, ou du moins une tradition de représentation de la nudité et de l'érotisme féminin, il y a aussi référence à des scripts ou à des codes de représentation des grands noms de la photographie de mode. Je vous montre, par exemple, encore ici, une image de Bourdin à droite, de Guy Bourdin, dont je vous ai parlé tantôt, qui est une sorte de maître de l'image de mode érotique. Et aussi, par exemple, Newton, auquel on voit une référence directe dans la série photographique. Du moins, moi, je considère que c'est une référence directe. Cette image de Newton avec les oreilles de lapin, qui est comme une sorte de bunny playboy aussi en même temps, qui est vraiment comme une image forte de sa pratique photographique dans les revues de mode. En plus de tous ces scénarios commerciaux, artistiques et donc érotiques, il y a aussi une reprise de scripts typiquement érotiques ou de la tradition pornographique. comme par exemple, évidemment, ce Shunga de Hokusai, dont on a parlé hier aussi, qui est comme l'archétype, je crois que c'est ce qu'Antonio disait, hein, un archétype du Shunga érotique. Littéralement, cette femme avec une pieuvre, avec un poulpe, qui, plutôt que d'être en train d'être dans un rapport sexuel représenté avec ce poulpe, plutôt le tient dans ses mains, donc il change un petit peu le rapport à l'animal et à ce monde imaginaire. Et aussi des reprises de scripts pornographiques érotiques, par exemple de ce style softcore. Et softcore, je l'entends comme Katie Berkeley, dans un article qui s'appelle « Sexuality and Difference », définit softcore comme les codes du softcore comme la femme individuelle qui indique, donc la femme individuelle dans l'image, qui indique le désir et le plaisir sexuel par son corps et son regard, et qui a toujours des accessoires sexy, que ce soit des talons hauts, des bonnes cuisses, des tissus semi-transparents ou des vêtements plus ou moins portés ou enlevés. Juste pour marquer que là, je fais une référence, une association libre là, entre ces deux images, juste pour montrer qu'il y a quand même des ressemblances dans le sens qu'une partie du corps est montrée, une partie du corps est cachée. Cette idée qu'on regarde, même si dans le fond, on montre l'arrière de son corps, le visage regarde de face. Donc, il y a un contact direct avec le spectateur ou lecteur-client. Il y a aussi dans ces images, selon moi, une reprise du script érotique softcore de la pin-up réinterprétée par Playboy depuis ses débuts. Par exemple, je vous montre ici Kate Moss en bas, qui est un mannequin du monde de la mode, dans le Playboy de décembre 2013. Et donc, c'est une des photos qui appartient au Playboy. Alors qu'en haut, l'image d'une actrice pornographique dans une revue de mode, l'image de Stoya dans la revue Pop. Et donc, une reprise d'une pose très archétypale aussi des revues érotiques comme Playboy. Et par exemple aussi, dans cette idée d'un softcore à la Playboy, une autre image de Playboy, celle-ci de janvier 2014, et avec lequel on joue un petit peu, dans le fond, dans l'image de mode chez Sorrenti. Donc, c'est pas exactement pareil, mais c'est les mêmes gestes, du moins des gestes similaires, des reprises de ce corps horizontal, passif, où lorsqu'il est dans une certaine activité ou dans un geste plus volontaire, met l'accent sur les zones érogènes, si on veut dire ça comme ça. Donc, référence au softcore, reprise de script du softcore, mais aussi reprise de script qui sont associés plutôt à du hardcore et de la pornographie sur le web, comme par exemple à ce qu'on appelle le fétichisme du wet and messy ou du splashing. Cette tradition visuelle, même si c'est une tradition contemporaine, de ces femmes qui s'enduisent de nourriture, de textures gluantes, plus ou moins colorées, et que souvent elles ne sont pas nues. Il y en a du splashing nu, mais souvent elles ne sont pas nues, les femmes. C'est le fait de s'enduire qui est l'appel érotique, qui est ce qui rend excitant l'image. Et dans Queen Frostine, pendant tout le long des images, la mannequin s'enduit de jello, de crème fouettée, se met le visage dans une tarte, trempe ses fesses dans du lait, se coule du lait sur le visage. Donc, évidemment, un rappel du script du Money Shot, parce qu'elle reçoit au visage cette substance blanche, mais en même temps référence à ce fétichisme, du moins ce qu'on appelle un fétichisme du wet and messy. Et donc, dans ces images, ce que je perçois, c'est que plutôt que de simplement reprendre des codes pornographiques pour faire quelque chose d'amusant, c'est qu'en fait, les images de mode elles-mêmes deviennent mettent en scène des stratégies masturbatoires où on pourrait utiliser l'image de mode de la même façon qu'on utilise l'image de Playboy, peut-être plus des adolescents qui utiliseraient l'image de Playboy qui est quand même gentille, là, mais où elle pourrait servir de soutien masturbatoire. Ce qui est intéressant à savoir dans ces images-là, c'est qu'en fait, à qui s'adressent ces images? Parce que dans Playboy, clairement, on s'adresse, du moins c'est ce qu'on veut, s'adresser à un lectorat masculin, hétérosexuel. Alors que, par exemple, dans cette série photographique, dans la revue 032C, pour cette édition spécifique de la revue se dit unisexe, qui s'adresse aux deux sexes. Il faudrait problématiser le terme unisexe lui-même, mais se veut dans un objectif d'atteindre autant le client lecteur mâle que la cliente lectrice femme. Voilà. Et de la même façon, dans les images pour le Pop, Pop British se veut une revue de mode qui ne s'adresse pas spécifiquement aux femmes ou spécifiquement aux hommes, mais réellement à tout le monde. Du moins, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Les vêtements qui sont vendus sont pour les femmes. Donc, on peut se poser la question. Dans cette lignée, je vois donc un échange, une sorte d'hybridation entre la pratique de photographie de mode et la pratique de photographie et de vidéo pornographique. Un autre exemple serait Steven Klein, qui est un photographe de mode très connu. Par exemple, il fait ce genre de travail typique, je vous montre, dans Vogue Paris, qui a travaillé pour la revue Richardson, qui est une revue l'éditeur dit qu'il parle de sexe, de désir et de culture porn. Ou encore une fois ici, Stoya est montré cette fois-ci dans un contexte beaucoup plus pornographique. Ce qui est intéressant, par contre, c'est cette revue Richardson, qui se dit pour femmes et hommes, continue quand même à déjouer un petit peu d'une certaine façon les scripts ou à mettre plusieurs scripts un par-dessus l'autre, je crois. Parce que Stoya, qui ici est représentée comme très féminine, dans des attributs de cette femme du pêcheur de Hokusai, ici est plutôt montrée avec des attributs qu'on associe au masculin, si c'est par la pilosité, mais aussi par ce sexe qui est un peu ambigu. Il y a d'autres images de la série où littéralement, c'est comme si son vagin est ressorti vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est un montage, je ne l'ai pas montré ici, je trouvais que c'était peut-être un peu trop, mais peut-être pas finalement. Donc, je ne sais pas si c'est un montage Photoshop, mais c'est comme si son vagin tranquillement se transformait en pénis, en phallus. Le passage de Steven Klein comme photographe de la mode à la pornographie se produit en même temps, donc on voit que c'est en 2013 ici, et ces images aussi sont en 2013, celles de Stoya, et le passage de Stoya, dans le fond, comme actrice pornographique assez connue à la revue de mode et qui dans le fond, occupe le même rôle que, par exemple, Christensen dans l'autre série photographique, qui, elle, est une mannequin et qui appartient au monde de la mode. Je vous montre aussi un autre exemple, juste pour complexifier un petit peu ça. Steven Klein encore, qui apparemment aime beaucoup travailler avec Stoya, parce que c'est Stoya encore ici, dans la revue Arena Homme Plus, qui est une revue qui elle-même se dit une revue de mode pour les hommes. Il faut savoir que la clientèle cible de Arena n'est pas nécessairement la communauté gay, mais la réalité, c'est que dans la consommation de cette revue-là, c'est principalement les gays qui consomment cette revue. Et souvent, les éditoriaux de mode dans cette revue mettent en scène des sexualités homoérotiques, etc. Alors que là, on est en train de montrer un contexte hétérosexuel avec cette star de la pornographie. Donc, juste pour dire que c'est pas si simple il n'y a pas comme un script simple qui est utilisé dans les revues de mode. Et je vous montre aussi un passage, cette fois-ci, peut-être plus entre le monde de l'art et la mode, mais qui travaille aussi les scripts érotiques. Donc, Nobuyoshi Araki, donc photographe, dans le Vogue Homme Japon, encore une revue qui se veut pour les hommes, mais dans un éditorial où Lady Gaga porte des vêtements donc féminins et où on vend des vêtements de femmes dans une revue d'hommes. Donc, qui reprend les scripts de bondage à la Araki, mais dans des images, encore une fois, où le spectateur, la spectatrice est un peu ambigu, hein, à qui s'adressent ces images, comment fonctionnent ces scripts, dans le contexte d'une revue de mode. Et donc, pour terminer, on peut... Mon intuition de recherche, c'est que la revue de mode, comme espace de sensation, produit, dans le fond, une marchandisation... il se produit là où il se produit une marchandisation du corps dans un système hétérosexuel patriarcal, mais en même temps, il se produit un appel qui pourrait être à la fois auto-érotique ou érotique tout court, qui brouille le schéma purement patriarcal ou phallocentrique qu'on associe avec l'image de mode. Donc, je vois dans ces images réellement la mise en place de stratégies masturbatoires. La question que je me pose, c'est pour qui et comment. Je finis avec cette image-là. Et pourquoi dans une revue de mode?